Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI et pour évoquer aujourd'hui, eh bien, notamment la Copa América au Brésil. Mais où le Brésil n'est pas maître en son pré, la Seleção a manqué sa qualification directe hier soir au terme d'un match terne face au Venezuela et ses supporters n'ont pas aimé. Cette compétition à domicile signe-t-elle le divorce entre les Torcedores, pourtant passionnés, et leur Seleção? Nous en parlerons. L'Argentine peut-elle profiter, elle, de ce moment pour se redresser, faire oublier la Coupe du Monde ratée en Russie et corriger la première correction encaissée face aux cafeteros colombiens? L'occasion de faire mieux la nuit prochaine face au Paraguay. C'est du moins ce qu'on espère, surtout pour les gens qui veillent. Bonjour, Carlos.
Bonjour, Lali. Pourquoi tu rigoles?
Parce que c'est 2h30 à 5h30 du matin, le match en France.
Oui, c'est pas grave, c'est on sera toujours là.
Vous êtes fidèles, vous. Fidèle au poste. Marta, la brésilienne, meilleure buteuse de la Coupe du Monde avec 17 buts inscrits en 5 compétitions mondiales. Peut-elle supplanter l'Allemand Klaus qui, lui, a inscrit 16 buts? Marta est-elle la plus grande joueuse de l'histoire? Cannes, la Coupe du Monde d'Afrique des Nations J-2 et refus d'effectifs des stars. Seront-elles toutes au rendez-vous en Égypte pour faire briller la compétition continentale? En tout cas, en écoutant RFI, vous saurez tout sur la compétition et notamment en écoutant Radio Foot. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous les amis. Alors, quel bonheur d'être là après un petit séjour court mais magnifique séjour sénégalais. J'embrasse tous mes amis sénégalais.
Oui, on avait déjà Habib Bey qui revenait du Sénégal. On a vous qui rentrez du Sénégal et vous partez bientôt en Égypte, bien sûr.
Ah, bientôt en Égypte. Hein, là, énorme canne qui s'annonce.
Chef Guémour, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bon retour dans Radio Foot International. Un blessé, on va dire, il était à l'infirmerie et il s'est rétabli.
Voilà,
il va beaucoup mieux, il court comme un lapin.
J'ai repris l'entraînement.
Presque. Ouais, les mollets, des fois, c'est fragile. Radio Foot, c'est parti.
Hors-jeu, but refusé.
Philippe Coutinho, à nouveau, marque pour le Brésil.
Oh là, la vidéo.
Non, il a soufflé quelque chose au couteau.
But refusé. But refusé à Philippe Coutinho. Les sifflets de Salvador. Le Brésil, tenu en échec. Face au Venezuela, 0-0.
La Seleção en guerre de réussite hier soir à Salvador face au Tintos du Venezuela. Pas de but, ou plutôt 3 buts refusés par l'arbitrage. Et le public a sifflé ses joueurs qui ont pourtant largement dominé la partie, ou assez largement, ils avaient en tout cas la possession, comme au premier soir donc de la compétition face à la Bolivie dans le grand stade de Sao Paulo. Le public a sifflé. Les Brésiliens semblent en vouloir à leur sélection, avoir des comptes à régler en tout cas avec elle. Pourquoi? Eh bien, c'est une question qu'on va poser à Nicolas Cougo, qui est rédacteur en chef de Lucarno Posé, un site qui suit la Copa América au Brésil de très près et que vous pouvez suivre ou sur un site ou sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Boa tarde, Nicolas.
Boa tarde.
Alors, vous êtes à Sao Paulo, vous suivez la compétition donc dans le pays qui organise cette compétition. Les Brésiliens, on a l'impression qu'ils vivent un désamour avec leur sélection. Ils la sifflent au lieu de l'encourager. Pourquoi?
Pourquoi? C'est une bonne question. Alors, il y a j'irai même plus loin que désamour. Hein. C'est même plus un désamour, c'est un désintérêt total. C'est du mépris, ils ne s'en occupent même pas. Les racines, c'est évidemment le 7-1. C'est toujours dans les têtes, hein, le 2014, donc la fameuse demi-finale face à l'Allemagne. Et puis, on entend aussi un petit peu les histoires de Neymar avec ses frasques sur le terrain. Ils n'ont pas vraiment apprécié sa performance pendant la Coupe du Monde 2018. Et puis, les frasques en dehors du terrain, celles qui ont éclaté juste avant la compétition. Donc, il y a plusieurs faisceau qui converge vers ce qui est devenu un véritable désintérêt. C'est vraiment un désintérêt. C'est personne. Là, on est à Sao Paulo. Il n'y a pas un drapeau brésilien dans les rues. Hier soir, On est sorti pour aller suivre le match du Brésil dans un bar, puisque le match était à Salvador. Il n'y avait pas un maillot brésilien dans les rues, ou un ou deux de temps en temps. Dans les bars, c'était extrêmement calme. Ça ne les intéresse pas. Vous discutez avec des gens, il y en a qui ne savent même pas qu'il y a la Copa América qui se déroule actuellement au Brésil.
Incroyable. On avait lu au début de la compétition que les billets aussi ne se vendaient pas bien. 65% seulement pour des affiches quand même qui peuvent être attrayantes, parce que c'est surtout des voisins du continent. Les billets sont très chers.
Les billets sont horriblement chers. On était au match d'ouverture au Morumbi. Le premier prix, donc les places les plus accessibles entre guillemets, étaient à 50 €. Ce qui est immense pour un Brésilien. Les matchs, par exemple, cet après-midi, il y a Colombie-Qatar, le match démarre à 30 €. Donc, c'est trop cher. C'est beaucoup cher pour les Brésiliens. Et il y a tous ces éléments qui font qu'on ne remplit pas les stades.
Est-ce que aussi on parlait du 7-1, alors ce fameux match qui fut une tragédie pour le Brésil, qui aurait bien aimé voir sa sélection gagner au pays, mais l'organisation aussi de la Coupe du Monde et toutes les conséquences qu'il y en a eu, parce que c'était dans un contexte politique assez particulier, ouais. Et le désastre financier qui a été accentué par les JO a peut-être laissé aussi un goût amer aux Brésiliens ?
Ouais, il y a un sentiment, en fait, et oui, il y a cela, et il y a aussi, on a l'habitude de voir le Brésil comme un pays joyeux, hein, dans nos mythes à nous, clichés. Dans nos visions du Brésil, dans nos clichés du Brésil, il y a quand même une certaine morosité ambiante, on le voit dans l'air du temps, on le voit aussi, le contexte politique actuel, même si Jair Bolsonaro a été largement élu, mais voilà, il y a une ambiance très particulière, hein, très franchement, pour en comparaison à ce. J'étais au Chili il y a 4 ans pour la Copa América chilienne. C'est le jour et la nuit. Hein. L'ambiance n'est pas du tout la même. Il y a une ambiance assez assez triste, ouais.
Mmh. Alors les Brésiliens, est-ce qu'ils n'aiment plus la sélection ou est-ce qu'ils préfèrent leur club? Un des célèbres commentateurs de football au Brésil qui s'appelle Juca Kifuri a son explication. Il l'expliquait d'une façon amusante sur son blog et on va l'écouter. Pour lui, eh bien le lien a été perdu entre l'équipe nationale et la nation.
L'explication, c'est une politique délétère de la Confédération brésilienne qui a créé une distance entre le supporter et sa sélection. Pas seulement parce que qui porte les couleurs du Brésil joue loin du pays, mais aussi parce que le supporter n'a plus de lien direct. Combien de fois a-t-il dû jouer le Brésil ici, au Maracana, au Morumbi ou à Fontenova? Combien? Non, les matchs amicaux se disputent au Qatar, à Londres, mais pas ici. Et toujours pour gagner plus et plus et plus d'argent. Et tout le monde sait à quelle fin. La Confédération, la CBF est corrompue et cette image négative rejaillit sur la sélection. Et puis, on ne convoque plus les milieux de terrain du Corinthians ou de Palmeiras pour que chaque supporter en discute. Non, non, ce sont les défenseurs de Manchester City ou Liverpool qui n'ont rien à voir avec nous. Avant, c'était ton gardien contre le mien.
Antes, non. Era o meu goleiro contre o seu goleiro.
Ce grand écart, hein, il ne vient pas d'hier. Déjà, à peu près en 1994, on commençait déjà à sentir un peu tous ces joueurs brésiliens, évidemment, qui jouaient très loin du pays.
De plus en plus.
Voilà, de plus en plus. Mais c'est vrai que Sheriff, ça a accentué finalement, parce qu'il part très très jeune. On voit Vinicius, il a 17 ans, il est déjà au Real. On pense à Robinho, on pense à tous ces joueurs.
William,
Gabriel Jesus, voilà.
Oui. On en avait parlé avant la Coupe du Monde dans SoFoot. Il y a vraiment une distance qui s'est créée de plus en plus parce que j'ai plus les statistiques, mais jusqu'à les dernières Coupes du Monde, il y avait encore pas mal de joueurs locaux du CRU qui étaient dans le championnat brésilien. Et il y en a quasiment plus. Je crois que la dernière Coupe du Monde n'avait plus que 2. Donc forcément, le lien de proximité, il s'est très 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 distendu. Par contre, paradoxalement, je veux dire, par rapport à la passion football au Brésil, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est quand même un peu une réalité. C'est quand même une société qui a pas mal progressé, qui s'est, enrichi économiquement et socialement. Donc, la passion.
D'autres distractions.
Voilà,
d'autres
la
loisirs.
Passion, entre guillemets, tiers-mondiste du Brésil d'avant pour ce football, parce que vraiment, c'était la passion, c'était le jeu, enfin, tout, voilà, c'était la culture des classes populaires. Il y a une montée des classes moyennes quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du sous-développement au Brésil. Bah, du coup, cette passion populaire, vraiment, vraiment de la base. Ça c'est un peu distendu. Puis bon, évidemment, il y a le 7-1 qui passe pas. Alors après aussi encore une autre un petit bémol quand même, c'est le Brésil aussi a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2016 et ça bon, ça a quand même recréé un peu le lien, mais évidemment, c'est pas la sélection, c'est la médaille d'or, c'est
Ouais, la médaille d'or et puis la Coupe du monde,
c'est l'arrivée à la France, c'est l'arrivée à l'Argentine, à l'Uruguay. Combien de joueurs de la France ils jouent ici?
Bien sûr.
Mais ils font tous leurs matchs au Stade de France, où ils les font en France, ils jouent à Toulouse, ils jouent en France quand même.
Les Brésiliens, ils jouent à Londres. Hein.
Oui.
Mais à Doha
récemment. Oui, mais parce que c'est différent la richesse du football brésilien à la richesse du football français.
Bien sûr.
La question est là, mais sinon, il n'y a pas de joueurs français qui jouent ici. Il n'y a pas d'Uruguayens qui jouent en Uruguay.
Si, Mbappé.
Si, il y a encore.
Et il y a un lien énorme d'ailleurs.
Combien de jours il va rester encore Mbappé?
Ça, on se demande. Nicolas Kubo, il y a peut-être une chose aussi. Justement, le fait que les joueurs s'éloignent si tôt de leur pays, ils ont peut-être aussi une manière de jouer aujourd'hui qui séduit moins les Brésiliens et qui est moins ce style qu'on avait appelé samba fut un temps, comme on disait le football champagne français.
Ouais, mais le Gabonito, il avait déjà disparu avec l'époque déjà 94, on n'y était plus trop. Quand on était sous Dunga, on va pas parler de Gabonito non plus, c'est quand même l'opposé de tout ça.
Ah, il y avait des magiciens quand même. Les 3R.
Ouais, mais les dernières années de Dunga, c'est pas
Bien sûr, bien sûr.
Il y a cet effet-là, c'est une évidence. Il y a le fait que voilà, la sélection de tête là comme ça, j'ai pas toute la liste des 23 en tête, mais il me semble qu'il y en a encore que deux qui jouent au pays.
Voilà.
Notamment celui qui est probablement l'un des meilleurs actuellement. Enfin, quand il entre sur les deux premiers matchs, c'est Everton. Il joue à Grêmio, qui est pas forcément qui est pas forcément le club le plus populaire du monde, ni du pays déjà, ni de sa ville peut-être. Mais il y a cet effet-là. Et les joueurs partent très vite, la sélection n'est jamais là. On entend aussi parfois quelques arguments comme quoi il y a aussi l'appropriation de la sélection par certaines personnes politiques, notamment. On a entendu des arguments comme quoi le retour du maillot blanc, c'était parce que Bolsonaro s'est mis pas mal en jaune avec le maillot du Brésil. Donc il y a aussi tout cela. C'est très très particulier. Le contexte est très lourd autour de la sélection. Et après, par rapport aux Jeux Olympiques, ça a pas franchement recréé de grands liens. Hein. Aux Jeux Olympiques, ils ont surtout parlé des filles. Plus que des garçons, alors que les filles sont éliminées beaucoup plus tôt que les garçons qui gagnent. Donc les filles ont vraiment pris la place au Brésil. Hein. C'est là, on n'entend que parler que des filles dans la rue.
Martha, bien sûr.
Et dans les médias d'ailleurs. Ouais, par exemple.
Oui, aujourd'hui.
Elle fait la une des journaux aujourd'hui, alors que la Seleção qui a joué hier soir, pour certains, le Folha da Sao Paulo. Ne parle même pas du match de l'équipe A dans sa une. Ouais. C'est les filles, c'est Martha.
Ouais. Incroyable. Hervé.
Donc c'est quand même assez terrible.
Ouais. Hervé Penaud.
Vous savez, moi, je trouve que c'est toujours assez compliqué de trouver des raisons à un désamour, en tout cas, une désunion entre les supporters. Et,
c'est une accumulation, en fait.
À mon avis, moi, ça reste toujours quand même très lié au résultat. Effectivement, les matchs amicaux qui n'ont pas lieu dans ce pays, c'est une chose, mais regardez en Afrique, les équipes jouent absolument jamais chez elles. Ça n'empêche pas d'avoir de la passion quand l'équipe nationale réussit des résultats. Parce que de toute façon, les éliminatoires ont bien lieu, les éliminatoires par exemple de la Copa ont bien lieu au Brésil. Donc ça devrait aussi recréer du lien. Mais le lien, il ne vient pas. À partir du moment où vous n'avez pas de résultat, vous avez des comportements inadmissibles de certaines stars de l'équipe. Je pense à Neymar, qui est quand même l'idole absolue.
Pendant la Coupe du Monde en Russie.
Pendant la Coupe du Monde en Russie. Je ne dis pas du tout qu'il aurait violé
pendant la Coupe du Monde, et même
récemment. C'est-à-dire que ça, c'est une accumulation. Parce que même s'il ne s'est rien passé, qu'est-ce que voient les gens? C'est quand même quelqu'un qui dit bah, tiens, cette nana, elle me plaît bien, je vais la ramener du Brésil pour en donner autant. Et puis elle va venir une nuit, puis elle repartira demain. Donc tout ça fait qu'à un moment, ces comportements-là, ajoutés à des non-résultats, ça crée cette distance entre le public et puis le peuple et l'équipe nationale. Et tu parlais tout à l'heure, Chérif, du peuple en tant que tel, c'est-à-dire il y aurait une passion plus folle parce qu'entre guillemets, il y aura un niveau social un peu moins
folle.
Oui, non, mais parce qu'il y aura un niveau social un peu moins élevé aujourd'hui.
Ouais.
Et il n'y a pas que ça non plus. Parce que ça, je peux comprendre la passion folle des gens qui à travers le football, ont l'impression aussi de vivre. Mais dans une société comme le Brésil, comme dans des sociétés, par exemple, africaines aussi, c'est pas parce que vous êtes d'un haut niveau social que vous n'avez pas la même passion. Mmh. C'est-à-dire que vous avez des gens au Brésil, en Argentine, j'imagine que ça va être pareil, qui sont passionnés de football. Après, évidemment, il y a une manière de le montrer qui est peut-être différente quand vous êtes...
Ou de le vivre,
oui.
Non, il y a les désamours parce qu'il n'y a pas de résultats non plus.
Voilà, c'est évidemment.
En Argentine, depuis 1993, il n'y a plus eu un résultat positif. Et si on arrivait à la finale de la Coupe du Monde, à la finale de la Coupe Américaine, mais avec ça, c'est pas suffisant pour le supporter de football.
Il faut des trophées.
Il faut gagner. La seule chose qui reste, c'est gagner. Alors, en Argentine, les jeunes, ils sont des quoi? Ils aiment pas les joueurs. Mmh. Un mec comme Messi, il s'est fait siffler.
Ouais,
c'est incroyable.
Bien sûr. Mmh. Il est revenu.
Le meilleur au monde.
Nicolas?
Mais par contre, du côté des Argentins, il y a toujours l'enthousiasme quand on aborde une compétition. C'est-à-dire que si on écoute les Argentins, la Copa América cette année, ils la gagnent.
On est plus vargeux que les autres. Parce que nous sommes plus vargeux.
Mais par contre, voilà, quand on les voit, quand on voit les hinchadas argentines qui débarquent dans le pays, enfin voilà, elles sont là. Il y a encore un enthousiasme.
Ils ont des bons souvenirs de 2014, quand on les a vus débarquer à Rio pour la finale. Mais c'est 100 000, 200 000, je me rappelle plus.
Mais c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant, effectivement, parce que là, on entend à Sao Paulo, qui est quand même la grande ville brésilienne. Hein, il y a combien de millions d'habitants? Je ne sais pas, mais 20 millions d'habitants. Donc, vous vous rendez compte un peu. Il devrait, même s'il y avait peu de passion, ça devrait normalement générer de la passion. Mmh. Parce que même peu de gens, bars remplis, et on n'a pas besoin de mettre un million de gens dans un bar. Et ben non, même là, si tu ressens absolument aucune émotion à travers l'équipe nationale, ça a l'impression que c'est grave, docteur. Hein.
En tout cas, Nicolas, quand même, ils devraient peut-être se qualifier quand même. Ils sont en tête du groupe A, même si ils ne sont pas encore qualifiés directement. Il reste un match.
Ouais, ils ont 4 points, donc ça devrait passer. Il reste un match face au Pérou. Après, il peut très bien arriver un accident face au Pérou, hein, parce que si on parle du terrain pur et dur, ce Brésil-là ne convainc pas et il a quand même quelques failles qu'on a vu un tout petit peu face au Venezuela. On va voir face au Pérou. Oui, ça devrait passer. Normalement, ça devrait passer, mais est-ce que cela sera suffisant pour réveiller le peuple? Parce qu'après, c'est pareil, hein, le Brésil, c'est aussi un peuple qui n'existe, entre guillemets, que par les Coupes du Monde. Hein. Il se remet derrière sa sélection. On disait qu'il faut des résultats, mais c'est surtout des résultats en Coupe du Monde. Mm-hmm. Parce que les Copas Américains, j'ai envie de dire, elles sont un peu secondaires.
Ouais. Pour moi, le Brésil continue à être le premier candidat.
Ah oui, vous les avez vus jouer cette nuit? Vous m'avez dit que vous étiez ennuyé.
Je l'ai vu jouer cette nuit, mais le problème, c'est que le joueur brésilien avant, il prenait le ballon, il jouait un à un. Un contre un, ils essayaient de dribbler. Aujourd'hui, ils sont tous européens. Ils touchent le ballon, tout le monde, mais ils dribblent personne. C'est pour ça qu'Emerson, qui l'a rentré, il a dribblé deux, trois mecs.
Mmh. Everton.
Coutinho,
Everton.
Et Coutinho, Jésus, Firmino, ils touchent 440 fois le ballon. Ils n'arrivent pas au but parce qu'ils jouent à l'européenne. Mm-hmm. Le football européen, il est comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que quand Messi prend le ballon, il dit, oh, regarde, celui-là, il est différent. Salah, il prend le ballon, il joue un contre un.
Mais Neymar, il le fait, ça, quand il est là aussi.
Et Neymar, il le fait, mais il n'est pas là. C'est Neymar, c'est Messi, c'est Salah. Combien de joueurs? Même pas Ronaldo, il joue un contre un.
Non, bien sûr.
Alors on parle de Ronaldo, que c'est le 12e au monde.
Bien sûr.
Alors c'est pour ces raisons-là que le football brésilien, il n'enchante plus. Il n'y a plus de mecs qui jouent à un contre un.
Bah, il manque l'étincelle Neymar, de toute façon. On ne peut pas se passer de Neymar.
Oui, mais il ne faut pas dépendre. Écoute, Neymar, il était à la Coupe América, ils ne sont pas gagnés. Ouais. Il était à la Coupe du Monde, ils ne sont pas gagnés. Il est à Paris Saint-Germain, ils ne sont pas été champions d'Europe.
Ouais. Mais quand
même. Tu ne dois pas penser qu'il a quelque chose de différent. Ouais. D'accord? Parce que c'est un Brésilien d'avant.
Ouais.
Comme Robinho, quand il est sorti,
il a été formé là-bas, etc.
D'accord?
Il a grandi là-bas.
Mais avec un seul joueur, tu ne peux pas faire la différence.
Non, je suis d'accord.
Bon, ben Nicolas.
Et puis quand ils en ont un qui est un peu déstabilisant, ils le changent. Hein. Richarlison, qui est le plus déstabilisant, qui joue les 1 contre 1, qui provoque, est sorti encore hier. Il est sorti déjà face à la Bolivie. Donc, compliqué.
Eh ben vous nous tiendrez au courant de cette Copa América, on reviendra vers vous.
Ne t'endors pas surtout, hein, parce que j'ai l'impression que c'est...
il est tôt là, hein, il est tôt là.
Je parlais par rapport au jeu, pas si mal.
Non, par rapport au jeu, ça va, on va aller voir le Qatar là.
Ah ben le Qatar, ben voilà, un bon pays sud-américain.
Ouais. Merci beaucoup Nicolas Kougo.
Le Japon.
Et allez tous lire si vous voulez savoir plus de choses, Lucarno Posé. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Alors on évoquait l'Argentine, on évoquait Messi, on voit bien que vous aviez envie d'en parler, Carlos.
Ah, ça on peut pas l'empêcher.
Alors on va en parler.
Se entregó para Lerba, por la mitad de la cancha espera Barrios, que toma la iniciativa Lerba, está tratando de buscar el relevo, lo ubica por la mitad, otra vez abierto para la zona inferior, la tiene Cames, buen cambio de panorama, la tiene Roger, la bajó Roger, le tengo fe, Roger, pégale, Roger.
pase de James Rodríguez. ¡Qué golazo! ¡Qué jugada! Lerma y Zapata, que la había iniciado en la mitad de la cancha, aguantando.
Roger Martínez.
Alors, c'est pas un tango, Carlos, c'est bien de la musique colombienne, parce que les Colombiens ont fait danser les Argentins.
Ils les ont battus 2-0.
Et oui, en match d'ouverture.
Mais ça, c'était un match bizarre. Ouais. Parce que l'Argentine, elle était très mauvaise. La première mi-temps, 0-0. La Colombie, elle avait joué mieux. Mm-hmm. Mais la deuxième mi-temps, au meilleur moment de l'Argentine,
ouais. Gros temps fort.
Deux attaques, elles ont marqué 2 buts, quand ils ne le méritaient pas, Colombie. Mais c'est ça, le football. Il faut profiter des bons moments. Mm-hmm. Et la Exactement. Colombie, il a profité. Mais le problème, c'est que l'Argentine, il a eu la chance que le Paraguay, il a fait match nul. Parce qu'il menait 2-0, ils se sont fait égaliser. Parce que sinon...
2-2 avec le Qatar. Effectivement. Mm-hmm.
Parce que sinon...
Alors ce soir, l'Argentine disputera donc son deuxième match et ça sera face au Paraguay. En général, rien n'est simple face au Paraguay, mais écoutons le sélectionneur Lionel Scaloni évoquer le mental de cette équipe pour essayer de gagner ce soir.
Nous parlons ici d'unité de l'équipe et les conséquences pour la suite de la compétition. Nous sommes à un moment important, nous avons encore du temps dans ce tournoi. Tout commence maintenant. L'esprit de groupe est primordial. Il faut que les joueurs s'expriment, qu'ils parlent. Pour moi, en tant que sélectionneur, c'est fondamental. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, faire part de notre état d'esprit. C'était une réunion positive, je pense.
De que la majorité s'exprime et fait une réunion positive.
Alors, une réunion, Carlos, entre les joueurs, avec le sélectionneur, pour se dire les choses et pour essayer de gagner. Est-ce que l'heure est si grave pour l'Argentine, qui quand même, elle aussi, calcule plus au niveau mondial qu'au niveau continental et qui pense, qui sort d'une Coupe du Monde pas très réussie?
La question que l'Argentine, il doit penser un petit peu comme il doit penser Barcelone. Messi n'est pas loin de sa fin de sa carrière. Il n'est pas, il a 31 ans, il va avoir 32, il ne va pas jouer éternellement.
Est-ce que c'est un problème dans l'équipe d'Argentine alors
actuellement ? C'est un problème parce qu'il n'y a pas un mec comme Messi en Argentine. Et tout ce qui sort, ils sont
seul.
Très loin.
Oui. Oui, oui.
Et alors, c'est Barcelone, c'est la même chose.
C'est un problème finalement, un Messi dans une équipe en reconstruction ?
Non, c'est pas un problème, parce que c'est lui qui arrive, il se panique un petit peu, il donne le ballon à Messi, que lui, il va pas se paniquer. Mais la question, c'est qu'il faut voir ceux qui sont à côté de Messi, s'ils sont de très bons joueurs.
Et est-ce qu'ils sont bons ou pas?
Bonne question.
Comment les trouvez-vous actuellement? Ceux qui ont joué, là, contre la Colombie?
Il y a certains qui sont bons joueurs, mais il y a des autres qui, pour moi, sont pas d'un grand niveau, comme on pourrait dire.
J'ai l'impression qu'il y avait plus de vraie individualité du côté colombien, quand on cite les noms,
c'est-à-dire
Guardado, James. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui plus de vraie personnalité côté colombien qu'au côté argentin.
Non, mais il y a des joueurs qui sont joués en Argentine et des Colombiens.
Oui,
Barrios, il a joué 2 saisons à Boca Juniors. Et c'est celui qui a piqué tous les ballons à Messi pendant le match. Mais ce que je dis, c'est que l'Argentine, il doit réfléchir un petit peu de penser à jouer en équipe et jouer avec Messi. Mais c'est disant, Messi ne sera plus là dans un an, dans 2 ans. Ou peut-être qu'à la fin de la Coupe América, ils disent « je ne joue plus ».
On a du mal à lire le jeu de cette équipe argentine, mais ça fait des années que ça dure. J'ai l'impression que la dernière grande équipe d'Argentine que j'ai vue, moi, j'ai l'impression que c'est celle de 2006.
Et il n'y a pas de lien.
Il n'y a pas de lien.
L'Argentine, il n'a pas de numéro 8.
Ouais.
Il y a un numéro 8 qui profite du travail du 5.
Ouais.
C'est lui qui ratisse tous les ballons, qui les donne à lui. C'est lui qui les donne au numéro 10, un créateur, ou qui essaye de profiter de ses attaquants. Il n'a pas un grand numéro 10 depuis des années, depuis Burruchaga, je pense. Burruchaga, c'était le dernier pour moi.
Ouais,
et on parlait depuis 86. Hein.
Et Paredes?
Ah non, c'était pour rire.
Paredes, au Celso, c'est...
Lo Celso, surtout, apparemment, ce que nous disait Alejandro Valente, il ne l'avait pas placé où il fallait.
Non, selon il l'a mis sur le côté. Donc
je ne sais pas où vous le mettriez, vous, Carlos.
Plus axial, mais
voilà.
Il a fait jouer sur le côté. Il l'a fait jouer sur le côté droit.
Apparemment, ce serait une Argentine sans Di María et sans
Agüero
ce soir.
Ils sont fatigués. Quand on regarde le match, le pressing, s'il n'y a pas de pressing, ils n'attaquent pas le ballon comme des morts de faim. La dernière Coupe du Monde, quand même, ils avaient au moins ça. Ils mangeaient un peu le ballon, quand même. Même contre la France, c'était pas ridicule. Mais là, c'est la fin de saison. Moi, je vois beaucoup de fatigue. Sur le peu que j'ai vu sur la Copa América, je vois, même chez les Brésiliens, il n'y a pas la...
En tout cas, vous qui justement avez déjà suivi ces premières équipes, ces premiers matchs, quel est selon vous, malgré tout, les favoris? Alors vous disiez
moi,
que
le
malgré
Brésil,
tout, toujours
je
le Brésil.
Pense, à l'Uruguay.
À l'Uruguay.
Ouais, qui est bien parti avec un 4-0. La bonne surprise, c'est le Qatar au niveau du jeu. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Ouais. Pour la, pour le jeu.
Imaginez si le Qatar gagnait la Copa América. Ah ben, ça ferait bizarre.
À une finale Qatar-Japon.
Qatar-Japon.
Ce serait assez drôle.
Serait bien. Ah oui.
Et le Chili tenant du titre qui a mis 4-0 aux Japonais.
Hey, le Chili, c'est une équipe.
Hein, on a l'impression qu'ils n'étaient pas jeune, la dernière Coupe du Monde.
Contre le Chili, c'est une équipe qui était jeune. Hein, ils ne te laissent pas jouer.
Voilà. Mais il y a une âme. On a toujours l'impression qu'ils jouent en équipe. Quoi,
toujours. Ouais. Côté, peut-être un petit côté revanchard, parce que c'est vrai qu'ils doivent ça à leur public.
Il n'y a pas les vedettes, disons, des grands joueurs. Mais il y a un sens de l'équipe. Très...
C'est comme ça qu'ils ont gagné la Copa América.
Les deux fois en plus. Et face à l'Argentine en plus. On verra ça, on continuera à suivre cette Copa América qui va devenir de plus en plus intéressante. Et voilà, pendant ce temps, pendant qu'il y a la Copa América, et bien ici en France, Marta marque des buts. Et en remportant leur troisième match contre l'Italie, et bien les Brésiliennes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Et c'était grâce à un but inscrit donc par Marta. Marta, la fameuse numéro 10, la Rainha do Brasil, puisqu'il y a un roi au Brésil, le roi Pelé, il y a aussi une reine. Et hier, et bien face au Regazza de la Nacional, et elle a donc inscrit son 17e but en 5 Coupes du Monde. Un record qu'elle a commémoré. Vous allez écouter ce message. C'était en exclusivité au micro d'Elcio Ramalho.
Une petite pierre à l'édifice de notre lutte quotidienne pour l'égalité, la prise de pouvoir, d'exigence pour le respect de nos droits, principalement le combat pour l'égalité des sexes. Ce but, il est pour nous toutes les femmes, et pour les hommes aussi, pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que le sport peut être pratiqué à la perfection, autant par les hommes que les femmes.
Marta, un joli message, hein, elle qui a dû lutter toute petite pour réussir à s'imposer dans le monde du football, elle est du Nord-Est. Sa mère passait son temps à lui dire « Vossé non, Marta », à tel point que c'est le nom de sa biographie. Hein. « Pas toi, Marta ». Ben si, Marta. Elle a voulu jouer au football. Elle avait été remarquée en 2003, si je ne me trompe pas.
2003, première Coupe du Monde. Ouais.
Exactement. Et du coup, elle est partie jouer ensuite aux États-Unis. Elle a joué en Suède d'abord et ensuite aux États-Unis. 17 buts. C'est plus que Miroslav Klose, l'Allemand, qui détenait le record et qui avait joué en 2014 au Brésil, hein, la Coupe du Monde. Il détient ou il détenait ce record, Klose, Shérif, selon vous?
Non, c'est marquant. Il faut l'interpréter
parce
comme
un... Parce qu'elle a parlé à la presse allemande juste avant ce match-là en disant quoi, mais vous ne me demandez pas, mais moi, pourtant, j'ai inscrit autant de buts que Klose et je sais que je vais pouvoir battre ce record.
Non, mais rien que 17 buts, c'est énorme. On a l'air de dire, bah oui, 5 Coupes du Monde et tout, c'est une femme, elle a 33 ans et tout. Non, 17 buts, c'est marquant, c'est pareil, ça apporte encore sa petite pierre à l'édifice au football féminin au niveau de la notoriété mondiale. Il faut vivre de ça. Et qui plus est, c'est elle la vraie star du foot. Est-ce que c'est la meilleure? On en parle après. Mais voilà, elle marque, elle continue de marquer l'histoire du foot. Il faut bien qu'on se rattache à des noms. Il faut bien qu'on se rattache à un style, à sa chevelure, à ce genre de choses. Donc voilà, c'est elle.
Mais Marta, en plus, on l'a vu souvent recevoir à France Football. Non pas, alors il n'y avait pas de ballon d'or féminin encore, mais une récompense comme meilleur joueur du monde.
6 fois. Hein, joueuse, ouais.
Voilà, exactement. Est-ce que on peut dire c'est la meilleure buteur de toutes les coupes du monde?
Ah bah ça, on peut l'affirmer ça là-dessus. En revanche, moi c'est ouais. Ah ben, ouais. En revanche, moi je comparerais pas à Klose.
parce que c'est quand même deux sports différents. Alors bien sûr c'est le même sport, mais il faut, si on commence à comparer le nombre de buts marqués en handball par des filles ou des garçons, en basket par des hommes ou par des femmes,
au tennis.
Donc moi à mon avis ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'elle est la meilleure buteuse de l'histoire du football féminin, mais ça n'a rien à voir avec Klose, parce que si on voulait après rentrer dans chaque match qu'elle a pu faire, peut-être qu'au début des années 90 l'opposition était plus faible, donc les bonnes joueuses bah, évidemment pouvaient faire des grosses différences. Aujourd'hui marquer autant de buts que Klose sur ces coupes du monde, c'est quand même c'est un véritable exploit. Ce qu'elle fait, c'est un exploit à l'image de son sport. Klose, ce qu'il a fait, c'est un exploit à l'image de son sport, mais surtout, à mon avis, il faut éviter les comparaisons. Ce qu'elle est, exactement, c'est l'image du football féminin, c'est certainement la plus grande athlète en football féminin, et puis ça suffit, voilà. il n'y a pas besoin d'en faire plus.
Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que les deux noms sont associés maintenant, Klose et Marta.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Carlos, vous l'avez vu jouer, Marta, ça fait tellement longtemps qu'elle joue. Est-ce qu'elle vous impressionne?
Qui à son âge encore, il continue à parce que quand même il a 33 ans. Et pour une femme, on ne sait jamais jusqu'à la limite d'âge. Aujourd'hui, on peut dire un joueur de football, il arrive à jouer jusqu'à 36, 37, 38. Mais une femme qui arrive à jouer 33. Et
bah, vous avez vu que dans cette équipe brésilienne, la défenseure Formiga, elle a 41 ans et elle joue toujours au Paris Saint-Germain.
Oui, mais c'est pour ça. Alors, il faut s'étonner dans la juste mesure. Disons, parce que parmi les femmes, elle continue à être très forte.
C'est la meilleure, selon vous? Celle qui a marqué le plus ce sport et...
Techniquement, oui.
Techniquement, il est très doué.
Il manque le trophée, il manque le palmarès, toujours. Quand je compare à Rapinoe, à Wambach, comme on dit, les Américaines, elles ont un peu marqué. Parce qu'elles ont gagné des titres, elles sont championnes du monde, c'est ce qui manque. Après,
et elles ont un championnat aussi qui est
le truc, c'est ça. Et en plus, c'est aussi la sélection.
Un énorme niveau.
Voilà. Et est-ce que la sélection, enfin autour d'elle, il y a des joueuses qui sont suffisamment compétitives avec Marta pour faire une grande sélection brésilienne? Visiblement, c'est pas trop le cas. Mais sur ce qu'elle fait, moi à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression de voir Ronaldinho jouer. Genre techniquement, évidemment, pour moi, ça reste la.
À quel âge?
J'espère qu'elle sort moins que Ronaldinho.
À quel âge est Ronaldinho?
Ronaldinho, je ne sais pas. Il a joué vieux.
Je dis quand tu la vois jouer.
Le Ronaldinho de ses débuts, on va dire.
Ah oui, le Ronaldinho, le grand Ronaldinho du Barça de 2006, évidemment.
Mais je répète, j'espère pour elle qu'elle fait moins la fête que Ronaldinho.
On ne sait pas. En tout cas, la Coupe du Monde donc en France a livré ses équipes qualifiées en huitième de finale hier. De nouvelles équipes, trois. Et donc, c'était dans le groupe C, l'Italie qui a fini première. Alors, elles ont toutes le même nombre de points, mais le Brésil est deuxième. L'Australie troisième, et apparemment ça serait un France-Brésil dimanche soir au Havre. Qu'est-ce que vous en pensez, Chérif?
Sur ce qu'on a vu, alors le problème, il faut attendre le VAR, c'est ça, c'est pas encore.
Mais
sur ce combat du Brésil, franchement, c'est pas extraordinaire. Ils ont été battus par l'Australie, bonne équipe, et par contre, on est sur notre fin avec l'équipe de France, c'est pas on est pas un 100% rassuré. Donc allez, on va se mouiller. Petit avantage pour la France, parce que bon, on est à domicile. C'est plus cohérent quand même que ce qu'on a vu sur le Brésil. Mais cette année, on a vu tellement de surprises.
Mais c'est marrant quand même autour de cette équipe de France. Cet engouement incroyable qu'il y avait au début, ayant quitté les quelques jours... la France pour ce beau pays qu'est le Sénégal. Quand je suis revenu, j'ai eu l'impression que tout le monde pointait les fusils effectivement sur l'équipe de France, et il y a eu une descente un peu dans cette sensation d'invincibilité qu'avait montré l'équipe de France contre la Corée. Ouais. Et puis aujourd'hui, tout le monde me semble très très inquiet. Alors j'espère surtout, c'est que ça va pas rejaillir sur les joueuses, parce que le problème, elles sont pas habituées à ce genre de situation. Les gars, ils connaissent ça, les critiques, etc. Et ils savent faire avec. Au contraire, d'une certaine manière, ils les utilisent pour se battre contre un ennemi un peu invisible. Alors que là, on ne sait pas du tout comment elles vont prendre ça. Il n'est pas du tout dit, effectivement, que contre le Brésil, même, alors qu'elles sont à première vue supérieures, et ben comment elles vont réagir? Parce que c'est pas toujours évident de vivre ce genre de situation.
Moi, j'étais pas là lors des dernières émissions, mais pour en venir à cette Coupe du Monde féminine, je pense que le gros problème avec cette équipe de France, c'est que moi, j'ai pas mal suivi, dans les compétitions qui se sont déroulées. Il y a une sorte de pensée magique qui accompagne cette équipe de France. C'est que moi, de tous les derniers tournois, que ce soit l'Euro, les Jeux Olympiques, Coupe du Monde, enfin, toutes les compétitions auxquelles ils ont participé, il y a une pensée magique qui dit, ce coup-ci, c'est la bonne avec l'équipe de France. On aimerait y croire. Alors, on s'emballe. C'est un peu l'emballement, l'engouement qu'il y a. Et c'est extraordinaire. C'est très bien. Les stades sont pleins. Il y a un engouement. On y vient par la famille entière.
10 millions de gens qui regardent le match.
Mais avec toujours cette pensée magique, c'est ce coup-ci, c'est la bonne. Il y a pas de raison. Et en fait, ils échouent toujours à la quatrième place, en demi-finale et tout. Il faut savoir raison garder.
Surtout si on prend les Américaines en quart de finale, donc ça va être un sacré test. Au moins, on en saura plus.
Bah, tu te rends compte, ouais. Les Anglais sont en train de monter aussi. Enfin bon, je veux dire.
Ouais, les circonstances.
Il y a cette pensée magique. Il y a cette pensée magique. Alors, la pensée magique qui est diffusée par les, notamment par les médias. Bah évidemment, le bon peuple, les gens qui suivent, qui découvrent un peu le football féminin, ils ont envie de s'emballer, ils ont envie d'y croire. Et quand ils voient, justement, comme tu dis, cette descente, ça commence super bien avec un bon 4-0 contre les Coréennes. Et puis, ça devient de plus en plus dur. Et là, on nous aurait menti. Qu'est-ce qui se passe? C'est la faute de cette pensée magique. Ouais. L'équipe de France est plutôt bonne.
En Russie, un certain France-Danemark nous avait pas non plus super emballé, n'est-ce pas, Carlos? Hein, je me souviens qu'on avait regardé ce match. Et Carlos, mais c'est normal. De toute façon, ils sont qualifiés.
Ah non,
ils pensent
déjà
au prochain match. Donc,
c'est
pareil. Mais c'est vrai que les gens, les amateurs de base, s'étaient dit qu'est-ce que c'est que ce truc.
Il faut bien comprendre que pour des footballeurs, de temps en temps, il y a des matchs qu'on comprend avec un peu moins d'ambition ou de volonté de gagner.
C'était déjà.
Disons, oui, c'est pas la question. Non, de gagner, on a toujours la mission.
Oui, bien sûr,
mais
de
se donner.
Dire, voilà.
De se donner pas à 100%, disons.
Quand on sait qu'on est déjà qualifié, c'est pas tout à fait pareil.
Ça peut arriver.
Voilà pour ce qui est donc de cette Coupe du Monde que l'on suit donc ici avec intérêt à Radio Foot International. Une nouvelle qui nous vient du football international avant qu'on passe à l'Afrique, qui vient d'Espagne, c'est le sélectionneur Luis Enrique qui a décidé de quitter la Roja. On le savait, il était absent depuis quelques temps pour des graves problèmes familiaux. Eh bien, il a choisi de quitter ses fonctions et en vue de l'Euro 2020, pour l'instant, on dit que c'est son adjoint.
Vous connaissez la raison ?
Robert Moreno. Non.
Elle a une fille qui est gravement malade.
Sa
fille, elle est gravement malade, alors il doit être à côté d'elle.
Il a fait le choix de la famille, bien sûr.
C'est plus important que le foot.
Donc pour l'instant, quelle instabilité en fait, l'équipe d'Espagne au niveau des sélections.
Exactement, un nouveau coup.
Sans juger.
Non, mais là, c'est sur un coup un peu différent.
Oui, évidemment.
Pour le coup,
t'as vu quand même.
En tout cas, Robert Moreno, qui était l'adjoint de Luis Enrique, pour l'instant, se retrouve à la tête de la Roja. Et oui, la CAN J-2 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme on a fini de parler de l'Argentine et qu'on va parler de l'Afrique, Alejandro Valente est venu dans ce studio. Oh. Bonjour Alejandro.
Ben oui, j'en ai marre de parler de l'Argentine.
Quand tu parles de l'Argentine, il parlait de Barcelone.
On a oublié de parler de la gardienne argentine quand même. C'est très bon.
Bon, on aura l'occasion, elle joue ce soir, donc on aura l'occasion d'y revenir. La fête du football africain durera donc 4 semaines et on aura le privilège de voir les stars évoluer sous leur couleur nationale. Et seront-elles au rendez-vous, ces stars? Eh bien, écoutons la première. À vous de deviner, messieurs, de qui on parle. Vous avez reconnu qui est chanté dans cette
chanson?
Quand même.
Moi, j'ai cru comprendre Penaud. Non, c'est Salah, finalement.
Alors, Mo Salah. Mohamed Salah, ballon d'or, non, mais presque. Hein, en tout cas, le meilleur joueur africain pour ce qui est des récompenses du côté de l'Afrique. Est-ce qu'il est en forme avec les pharaons? Parce que j'imagine que tout un peuple l'attend. Il n'était pas là. La frustration de la Coupe du Monde 2018 en Russie où il était blessé, même cette finale de Liverpool l'an dernier qu'on pensait cette année. Hervé.
Ah ben, ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux qu'il y soit. Parce que là, il a quand même le poids d'un pays sur les épaules. On ne se rend même pas compte à quel point Salah va avoir tout ça.
Si, parce qu'avec Radio Foot, on est allé en Égypte et on s'est rendu compte de cette attente.
Il y a une attente absolument incroyable. Il est plus qu'un footballeur. Il est une image, il est une icône. Et il a quand même bien commencé les matchs amicaux, puisqu'il a fait un très bon match amical contre la Guinée. Et tout le monde l'attend. Donc, vendredi soir, enfin dans 2 jours, il doit être présent au rendez-vous. En plus, il veut tellement montrer que c'est lui qui peut amener cette équipe d'Égypte qui n'est pas exceptionnelle, mais vers le titre continental. La Coupe du Monde, c'est une immense frustration pour lui, pour le peuple égyptien évidemment, mais surtout et avant tout pour lui, qui n'a pas pu donner tout ce qu'il espérait. Et là, aujourd'hui, il arrive en pleine possession de ses moyens. Alors, seule interrogation, on ne peut pas le savoir aujourd'hui, c'est dans quel état physique il est complètement au bout d'une saison éreintante avec Liverpool. Ils ont fait un mano à mano en championnat contre Manchester City. Il est allé en finale de Ligue des Champions, il l'a remporté.
Il a eu des hauts débats dans la saison.
Il fera, surtout au début de saison, puis après il est revenu à un rythme plus régulier. il va faire 40 degrés, 45 degrés sur certains matchs en Égypte. Si vous voulez aller au bout, c'est
le
7
Ramadan
matchs.
Est fini.
C'est 7, ouais, 7 matchs. 7 matchs, parce que là, ils ont rajouté le nombre de matchs. 7 matchs pour aller au bout, ouais. Avec 40, 45 degrés, ouais, un match tous les 4 jours. Je peux vous dire que quand vous arriverez en quart de finale ou en demi-finale, surtout si lui, on le repose pas, parce qu'à un moment, c'est la star. Donc, à mon avis, c'est un peu comme Messi en Argentine ou Neymar au Brésil. Mm-hmm. Il joue tous les matchs. De toute façon, quoi qu'il arrive, eh ben, on verra dans quel état physique il sera.
Carlos, l'état physique, en fin de saison, dans des clubs anglais qui sont exigeants, et maintenant,
mais
avec la compétition.
Ça fait déjà plus d'un mois qu'il a fini le championnat, quand même.
Bah oui, mais ils ont joué la finale il y a trois semaine.
1er juin.
Ouais. Oui, ça fait trois
donc
semaines.
Donc il ne s'est pas vraiment arrêté.
Mais tu récupères. Tu sais, en plus, quand tu te mets le maillot de ton pays, la fatigue, tu la laisses de côté. Tu ne joues pas tous les jours pour ton pays. Hein.
Mm-hmm. Et surtout à domicile, en plus, ouais. dans son propre pays, devant ses propres spectateurs. Ça sera la star pour vous de cette compétition.
Il y en a plein des stars.
Bon, alors, il y en a plein. Eh bien, une deuxième.
Ah. Oui.
Bah, voilà. Ça vous plaît ça, ah, Hervé bon, Penaud
ça. Ça c'est bon ça.
Ça rappelle
ça,
des
oui.
choses.
Ah bah.
Sadio Mané.
Oui, Sadio Mané évidemment. Ouais, ouais. Bah, c'est les deux Liverpooliens comme on
alors là ils vont se retrouver peut-être face à face, mais en tout cas ils seront plus dans le même
en
camp.
En Égypte, c'est le Burundi d'abord. Mais justement, on parlait des petits des. Alors évidemment, il y a des stars.
Mais non, il y a Mané, c'était des stars aussi.
Bah oui, Sadio Mané quand même.
Sadio Mané.
Alors le problème peut-être c'est de pas jouer ensemble. Firmino, il est à la Copa América, voilà. Et eux deux ils sont là chacun dans un camp.
Mais attention, il est très attendu Mané parce que vous savez aujourd'hui s'il veut dépasser Hadji Diouf. Pour l'instant, il ne l'a pas dépassé dans le cœur des Sénégalais, parce que c'est vrai qu'il a gagné la Ligue des Champions, mais il n'a pas montré en équipe nationale ce qu'a pu faire la Diouf avec son équipe. Ouais. Et donc aujourd'hui, lui aussi, il a une attente incroyable. Rappelez-vous le pénalty raté contre le Cameroun en quart de finale la dernière fois. Et il sait qu'il y a eu cette attente. Alors aujourd'hui, il va être mis dans les meilleures conditions possibles. J'ai vu que dernièrement, en match amical, Aliou Cissé a fait jouer un milieu de terrain un peu plus technique. Bon, là, il a monté légèrement que Degaï, mais il a joué Crépin Diata, qui pourra lui avoir cette qualité de passe. Ce qu'on disait toujours, que le problème, il n'était pas entouré de la même manière. Mmh. En sélection et en club. Donc, lui, il sait qu'il est attendu et on l'attend tous parce qu'il est capable de tout.
Il y aura peut-être cette star-là aussi montante et peut-être confirmée du côté de l'Égypte.
En 2 ans, il a énormément progressé. La vitesse est toujours là, dans ses courses et dans l'exécution des gestes techniques. Okay. Il a en plus fait évoluer son jeu vers plus d'efficacité. Il est moins tête baissée, plus tueur devant le but, ce qui lui permet de faire régulièrement sa fameuse célébration en forme de salut militaire.
Il y a quelqu'un qui a deviné là déjà.
Discret, mais attendez.
N'oublie pas ses premiers pas au FC Solitaire à Paris. Ses jeunes années où il
allez-y. Était...
Ah, je veux dire, il a beau être jeune, il n'empêche que c'est Pépé.
Exactement. Pépé.
Il sait tout faire.
Pour
il
la Côte d'Ivoire.
Il sait tout faire. Ouais. Il sait tout faire aujourd'hui.
On va voir un super Pépé à la Cannes.
Ah, il en veut. Ouais. Non. Mais il est sa progression régulière. Il a bien fait de rester à Lille cette saison. Il a donné toute la mesure. En plus, il s'est vraiment étoffé. Parce qu'avant, justement, bon, il avait un petit côté. Il sait mener le jeu, il sait marquer des buts et il sait marquer des buts.
Et pour le coup, lui, il est pas fatigué. Parce que lui, il a une saison, enfin quand je dis tranquille, entre guillemets, il a fait une 40 matchs à peu près dans
sa saison
maximum.
En plus, Lille joue assez haut. Donc,
ce portrait, en tout cas, c'était Christophe Jousset qui nous présentait Pépé, dernier prix Marc Vivien Fauet. C'est aussi à écouter sur le site de RFI, d'Afrique Foot, sur tous les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Radio Foot et aussi celle de Mondial Sport. Et il y a plein de portraits comme ça de joueurs africains.
Même sur Instagram, hein, RFI Sport, nouveau réseau.
En plus. Oh là là, mais vous êtes partout.
Pour terminer, parce qu'on doit donner la parole à notre chef à tous, donnez-nous des noms de joueurs que vous attendez peut-être comme stars de cette CAN et que vous aimeriez voir éclore.
Saïdo Beraino, du Burundi. C'est un Anglais, enfin, il avait la double nationalité, c'est un attaquant. Après, on peut citer Ziyech, Mahrez et tout ça, enfin, tous les noms qu'on attend, même Maxwell Cornet à la limite. Il y a pas mal de noms, mais voilà, parce que il a une trajectoire assez intéressante. Il a finalement choisi pour le Burundi alors qu'il était dans les sélections de jeunes en anglaise. Voilà, anglaise. C'est un nom comme ça.
Et vous, Hervé?
Alors là, vous
Jackson voulez... Mouleka, ça vous dit?
Oui, ça me dit quelque chose, mais je sais pas si je l'attends plus qu'un autre, pour tout vous
non,
dire.
Non, mais on se demande parce qu'il arrive un peu, il a 19 ans, alors on pense qu'il y en a d'autres à 19 ans qui ont été
aussi,
sélectionnés.
Il y a aussi l'Arsenal.
Ouais. Mm-hmm. Bon, franchement, il y a tellement de joueurs que je vais attendre. Alors, il y a peut-être moins, il y a une star que je voudrais voir un petit peu, et puis voir ce dont il est capable, c'est Wilfried Zaha, avec la Côte d'Ivoire, parce qu'il a jamais eu encore la possibilité de montrer tout son potentiel. Là, il va être titulaire indiscutable. On va voir ce qu'il est capable de donner. Bon, enfin, il y a tellement de stars, et j'ai même honte d'en oublier tellement.
On fera le point, vous inquiétez pas, régulièrement dans Radio Foot. Alors Alejandro Valente, à partir de la CAN commence dans 48 heures, RFI a les droits de retransmission de la compétition et ces grosses opérations déploiement sur le terrain là, ils sont déjà partis nos camarades.
Ah, j'avais une devinette aussi pour nos amis, quelle sera la radio de la CAN?
Ah oh bah ça, il n'y a même aucun doute.
C'est entre lettres.
Ah oui. Voilà. Et donc
même Carlos aurait pu répondre.
Et donc à partir de vendredi matin, les journaux de la CAN, un rendez-vous toutes les heures, à la mi-journée, la chronique de Joseph-Antoine Bell, et le soir bien sûr, le match d'ouverture entre l'Égypte et les Zimbabwe, commenté par nos envoyés spéciaux. Il y aura 22 personnes sur le terrain quand même. Oh. Pour faire vivre à tous nos auditeurs ce grand rendez-vous. Et vous le disiez, Annie, RFI, qui détient les droits des diffusions radio de la CAN en Afrique subsaharienne, a également donné mandat à la Fondation pour le développement du football africain pour permettre aux radios des pays africains d'accéder également à ces droits par le biais des sous-licences qui sont indispensables aux radios désireuses de diffuser les matchs. Nous avons demandé à Julien Akpaki, secrétaire général de la Fondation, de nous expliquer rapidement tout ça.
RFI est le détenteur des droits radio en Afrique subsaharienne. Et l'Afrique subsaharienne, c'est près de 48 pays, plus d'un milliard d'habitants. Donc, je salue vraiment ce partenariat sud-sud et ce partenariat nord-sud. Et quand le contrat était déjà signé, des dispositions étaient prises. Contacter en priorité les pays qui sont qualifiés. Et puis, accessoirement, les autres pays, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est vous qui avez les droits et à travers vous, c'est nous qui gérons l'exploitation et la délivrance, n'est-ce pas, des sous-licences aux radios, d'abord du service public et puis ensuite aux radios du service privé. Je voudrais aussi préciser, parce que il y a un peu d'amalgame, l'UAR n'a que les droits TV et c'est RFI qui a les droits radio.
Et donc, parmi
alors,
ces radios,
oui, vous avez...
oui, il y a des radios qui vont diffuser les matchs en français, en anglais, mais aussi dans des langues nationales, dans des langues vernaculaires.
L'innovation que nous avons apportée cette fois-ci, dans le cadre des droits radio en Afrique pour le football, c'est que nous avons introduit, comme vous le dites si bien là, deux innovations majeures. L'introduction des langues nationales dans la retransmission des matchs. Cette innovation non seulement valorise les langues africaines, mais elle permet aussi un fort taux de pénétration dans les foyers. Donc, en diffusant ces matchs des deux langues, une langue nationale, soit le français, soit le portugais, ou en tout cas une langue officielle, et deux autres langues nationales, c'est déjà une grande innovation. Et ensuite, la Fondation, dans ce cas précis, veut accompagner les différentes équipes dans la formation au métier audiovisuel dans le sport. Donc, nous accompagnons les radios qui vont pouvoir acquérir les droits dans la formation au métier audiovisuel dans le sport par un programme spécial en radio et puis en télévision. Il faudrait que je vous dise les dispositions qui sont prises, les contacts ont été pris avec les autorités de régulation, parce que comme vous le savez, ces droits radio et TV sont protégés par les règlements de la CAF. Donc, il faudrait profiter de votre canal pour dire que les diffusions frauduleuses du signal, aussi bien pour la télé que pour la radio, sont susceptibles d'être sanctionnées. Je voudrais vous en remercier au nom de la Fondation et de son président, M. Christian Lainde, et souhaiter que cette collaboration soit consolidée pour le bien des radios privées ou publiques africaines.
Et donc, merci à Julien Akpaki, secrétaire de la Fondation pour le développement du football africain, notre partenaire exclusif pour la gestion des sous-licences pour la diffusion des matchs de la CAN.
Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui à ce Radio Foot International. Merci, Carlos.
Merci à vous tous.
Bonne chance à l'Argentine, n'est-ce pas? Allez, viva Argentina.
Viva.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission du jour. Il y avait Laurent Salerno à la réalisation et nous serons là demain. Au rendez-vous, merci. Soyez là aussi.